Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour amis auditeurs, aujourd'hui je suis en compagnie d'Arlette Duruel, directrice de l'organisme de formation l'ADEA à Bourg-en-Bresse. Arlette, très marquée par un voyage au Laos, c'était il y a quelques années déjà. Bonjour Arlette.
Bonjour.
Arlette, vous êtes directrice de l'ADEA. Il y a quelques années, vous avez fait un voyage qui vous a bouleversée.
Oui, c'était en 2014 et c'était un voyage au Laos. Mais un voyage un peu particulier puisqu'il s'agissait de faire un trek sur 23 jours et de visiter des villages apparemment où, quand on a fait ce voyage, aucun touriste n'avait visité. On était les premiers touristes à traverser ces villages.
D'accord, donc vous étiez les premiers à voir ces gens et pour eux, la surprise était la même.
Eh bien, j'imagine, oui, en effet. Et c'est marrant quand vous parlez de surprise. Par exemple, à chaque village traversé, les femmes ont eu envie de toucher mes cheveux.
Pourquoi ?
Alors, vous le voyez, en fait, je suis très blonde, voire presque blanche. Et effectivement, ce n'est pas une couleur qu'on rencontre au Laos. Les femmes sont brunes avec des cheveux assez épais. Et je crois avoir compris qu'elles étaient très intriguées par ma chevelure, qu'elles avaient envie de toucher, ce qu'elles ont fait d'ailleurs abondamment. Nombre de femmes m'ont touché la tête. Mais c'était agréable parce que c'était une manière d'entrer en communication avec elle, là où pour moi il y avait la barrière de la langue et où je ne pouvais pas échanger par des paroles avec elle.
Donc vous avez trouvé des moyens de communiquer. Vous étiez donc avec ces femmes, vous étiez dans des cellules familiales, comment ça se passait ?
En fait, donc dans les villages qu'on a traversés, on était accueillis à la fois par tout le village parce que on a rencontré, on va dire, des villages qui fonctionnaient comme des communautés où tout le monde est informé de tout. Où quand il y a une personne qui arrive, tout le village se regroupe, enfants, adultes, personnes plus âgées, tout le monde arrive, tout le monde se rassemble autour.
Et donc vous vous retrouvez donc dans ce village, vous partagez donc le quotidien de ces personnes ?
Oui, c'est ça. Selon les villages, on pouvait rester soit toute la journée, soit plusieurs jours, jusqu'à 3 jours d'ailleurs, selon les villages. Et ça nous permettait de partager le quotidien des habitants du village, voire de partager les activités qu'ils menaient au long de ces journées. Hein.
Il y a des choses dans ce quotidien qui vous ont changé votre regard ?
Alors la première chose qui me vient, c'est effectivement la question de l'eau. C'est-à-dire que dans les villages que nous avons visités, l'eau était rare. Je veux dire qu'au mieux, il existait un point d'eau, donc qui était un point d'eau collectif, on va dire, qui servait à tout le village, mais il n'y avait pas l'eau courante comme on la connaît, nous, dans nos maisons. Mais dans certains villages, il n'y avait même pas l'eau à l'intérieur du village. Il fallait faire, par exemple, 1 kilomètre de marche avant d'arriver à une rivière ou à une source. C'était ça, la situation. Hein.
Alors, par rapport à notre situation à nous, ça vous a marqué ?
Oui, du coup, ça m'a vraiment fait prendre conscience que nous, on était dans une forme de confort matériel. L'eau, on l'a, comme on dit, au robinet. On tourne le robinet et ça arrive. Et on ne se pose même plus la question, en fait, d'où ça vient. Il y a une telle facilité qu'on ne réfléchit pas, au fond. Et puis, ce dont je vous parle, ça date de 2014. À l'époque, on ne se souciait pas ou on ne parlait pas de ce qu'on parle là depuis une année, on va dire, de la question de la rareté de l'eau, des dangers, de cet élément qu'il faut préserver, qu'il faut économiser. Moi, à l'époque, donc en 2014, ça m'a fait réaliser ça déjà. Et je me suis dit, mais cet élément, il est précieux, il faut en prendre soin, il faut se comporter autrement. Voilà, déjà à l'époque, ça m'a fait prendre conscience de ça.
Il faut se comporter autrement et ça vous a ensuite bouleversé quand vous êtes rentré en France ?
Alors, ce qui m'a bouleversé, effectivement, quand je suis revenue, je crois qu'il y avait un tel écart entre les conditions de vie, ce que j'avais observé, les gens que j'avais rencontrés donc au Laos pendant un peu plus de 3 semaines, puisque j'y étais restée 21 jours, en fait, Et le confort matériel que je retrouvais, le mode de vie que je retrouvais, que dans un premier temps, je ne savais pas comment j'allais faire d'ailleurs pour me réhabituer à cet environnement et à ce mode de vie. Et c'est en ça que, j'étais bouleversée. Et en tous les cas, ça m'a... Comment vous dire ça ? Je me disais, je ne peux pas continuer de cette manière-là. Il fallait que quelque chose change ou que certaines choses changent. Je ne savais pas quoi à mon retour, hein, mais je me disais que je ne pouvais pas continuer comme j'avais vécu jusqu'à présent, après cette expérience au Laos.
Comment ça s'est manifesté pour vous, dans vos rapports aux autres ?
Alors d'abord, il a fallu que, effectivement, je me réacclimate, on va dire, aux autres, à ces autres qui n'avaient pas vécu la même expérience que moi. Donc en plus, ce qui était difficile, je crois, pour mon environnement familial, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais autant bouleversée et que j'avais du mal à leur expliquer. Voilà, eux, ils étaient contents de me retrouver. Moi aussi, j'étais contente de les retrouver. Mais je ne voulais pas continuer à vivre exactement comme j'avais vécu jusque-là, après avoir vécu ce que j'avais vécu au Laos et ce que j'avais découvert au Laos et la prise de conscience aussi que ça m'avait fait avoir sur certaines choses, donc sur la dimension matérielle, la question de l'eau, comme on en a parlé. Hein. Et je ne savais pas comment expliquer ça à mon entourage.
L'expérience de vie collective était très différente aussi au Laos ?
Alors, en tous les cas, il y avait une grande proximité d'abord physique, parce que par exemple, quand on était accueillis dans une famille en particulier, on partageait leur habitat, qui était, quand je parle d'un habitat, en général, c'était une pièce unique qui avait toutes les fonctions. Hein, c'est l'endroit où on pouvait cuisiner, où on pouvait se rencontrer, échanger, où on allait dormir le soir. Donc, concrètement 20 mètres carrés qui pouvaient être partagés par 10 à 15 personnes d'une même famille. Et on a partagé ce quotidien et on a dormi aux côtés des personnes. Donc il y avait cette proximité. Donc oui, ça oblige à une tolérance, à une acceptation que les corps soient corps à corps, c'est le cas de le dire. Mais du coup, ça fait réfléchir aussi parce que petit à petit, il n'y a pas eu de gêne, il n'y avait pas de... comment je vais dire ça, de position surplombante des uns vis-à-vis des autres. C'était plutôt comment chacun a une place, trouve sa place pour manger, pour dormir.
Chacun pensait à l'autre également, pour que chacun puisse dormir.
Oui, vous avez raison de dire ça. C'est-à-dire que ça oblige aussi à avoir le souci des autres et à faire de la place à l'autre ou à se préoccuper de savoir si l'autre a eu aussi sa part à manger et comment les uns et les autres contribuent finalement au fonctionnement de la communauté et à la survie du groupe. Oui, ça oblige à ça.
Alors, le souci de soi qui est important chez nous, il est moins important là-bas. Vous m'aviez parlé d'un miroir et... qu'il n'y avait pas de miroir, semble-t-il, là-bas ?
Oui, en tous les cas, là où on est allé et les gens chez qui on est accueillis, alors ça peut paraître bête, mais nous, en fait, on est entouré de miroirs, on est toujours en train de se regarder. Et ça, je ne l'avais pas imaginé. Arriver dans les villages dont on parle, absence totale de miroir. Et moi, dans un premier temps, je reste avec mon fonctionnement d'occidental qui, au réveil le matin, a besoin de voir à quoi elle ressemble. Et en fait, je me rappelle d'un matin, d'ailleurs du premier matin, où je touche ma tête pour voir l'état de mes cheveux. Et là, je me dis, à quoi je ressemble ? Et je ne trouve pas de miroir pour me regarder. Donc, je pars à la recherche dans le village. Et en fait, je trouve, il y avait une voiture qui était garée à l'entrée du village. Et il y avait donc des rétroviseurs. Et j'utilise le rétroviseur comme un miroir pour regarder à quoi je ressemble. Et au moment où je fais ça, je sens qu'il y a du monde juste derrière moi. Je me retourne et là, je vois un attroupement de gamins. C'était une dizaine de garçons, mais qui étaient morts de rire, comme on dit, en me voyant faire. Et là, je me suis sentie très ridicule, franchement. J'ai pris la mesure que moi, je me souciais de mon apparence, alors que franchement, on s'en fiche de l'apparence. Et en tous les cas, ce n'était pas leur préoccupation. Donc oui, ça m'a fait prendre conscience de ça, qu'en tous les cas, nous, on est toujours dans ce souci-là de se regarder, ce qui n'était pas leur cas.
Alors, ça va peut-être avec ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas, semble-t-il, de position surplombante également, donc dans le village. Pourtant, il y avait peut-être bien un chef de village.
Oui, alors ce qu'on a repéré effectivement dans le fonctionnement des villages, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un qui incarnait une forme d'autorité. Donc il y avait quelqu'un qu'on pourrait appeler un chef du village, mais qui jouait ce rôle-là uniquement dans certaines situations. Quand il y avait un problème à résoudre ou on pourrait dire un litige par exemple entre deux villageois. Et dans ce cas-là, le chef du village réunissait à la fois les parties prenantes du litige, mais aussi tout le village pour qu'on explique la situation et qu'on trouve ensemble une solution.
Est-ce que vous avez un exemple ?
Oui, alors peut-être ça va vous faire rire, mais effectivement, j'ai un exemple. Il y a un matin, justement, où on attendait de pouvoir partir en marche et accompagner des femmes dans leur journée, dans ce qu'elles devaient accomplir. Et on était bloqués dans le village, on ne partait pas, on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, le guide nous explique qu'il y avait un litige entre deux habitants du village. En clair, un des habitants possédait une vache qui était allée piétiner un bout de terrain cultivé par un autre des habitants. Et du coup, voilà, il y avait un litige là-dessus. Du coup, on ne bougeait pas. Tout le village était réuni le temps de résoudre le litige. Et en fait, d'ailleurs, pour l'anecdote... je vais vous dire comment ça s'est résolu. Après avoir écouté les parties, après avoir demandé l'avis aux uns et aux autres, ce qui a été décidé, c'est de tuer la vache, parce que la vache, c'était elle qui était à l'origine donc, du champ qui avait été piétiné. Et donc, ça a engagé la responsabilité du propriétaire, de la vache, donc il allait être privé de sa vache. Mais pour le bien collectif, en fait, ce qui a été décidé, c'est que cette vache, elle allait être découpée et partagée entre tous les habitants du village. C'est-à-dire, tout le monde a récupéré un morceau de viande. Voilà, ça s'est résolu comme ça.
Vous avez à arbitrer souvent des conflits dans votre pratique. Est-ce que ce que vous venez de me raconter, ça influe sur votre fonctionnement aujourd'hui ?
Honnêtement, je ne sais pas si c'est l'expérience directe, on va dire, du Laos qui a transformé ma façon de faire, mais en tous les cas, ça a alimenté ma réflexion. Et c'est vrai que c'est la manière que j'ai aussi de procéder en cas de difficulté ou de problème à résoudre. C'est justement de ne pas rester toute seule dans mon bureau et de décider dans mon coin, mais c'est plutôt de réunir, d'entendre les personnes concernées, d'avoir leur version, on pourrait dire, et ensuite de réunir le collectif concerné pour mieux appréhender la situation, essayer de mieux comprendre ce dont il est question, et ensemble, de construire des solutions. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important.
Donc une position d'humilité, peut-être ?
Oui, on pourrait dire ça. Alors, la question de l'humilité, c'est aussi ce que je retire de ce voyage au Laos. C'est un sentiment très fort avec lequel je suis rentrée, parce que quand j'ai vu ces personnes, que j'ai pu partager certains moments de leur vie, que j'ai pu constater qu'ils vivaient dans les conditions qu'on a un peu décrites et qu'ils ne se plaignaient pas en fait de ces conditions de vie. Ils faisaient avec et puis ils se serraient les coudes, on va dire ça comme ça. Il y avait beaucoup de solidarité entre eux.
Donc une position d'humilité qui vous sert également dans votre façon de gérer, d'arbitrer les conflits entre les personnes. Est-ce qu'il y a une personne ou un enfant, une femme qui vous revient maintenant en tête ?
J'ai toujours gardé en tête, et on est en 2023, donc c'était en 2014, le visage d'une enfant en particulier sur un village où on a séjourné 3 jours. Une enfant qui est venue tout de suite à notre rencontre dès notre arrivée. C'était une enfant qui n'avait plus ses parents en fait et qui vivait avec son oncle et sa tante. Et du coup, elle a partagé tous les moments avec nous, et plus particulièrement avec moi. Donc concrètement, c'était vraiment se tenir par la main, être sur les genoux, m'emmener voir d'autres gamines du village. Enfin, donc oui, j'ai ce souvenir qui est encore là, voilà, et j'ai son visage en tête. Ça m'a particulièrement marqué, cette rencontre.
Vous avez été marqué par cette rencontre. Est-ce que vous savez comment vous avez marqué ces gens ? Vous-même ?
Alors ça, on pourrait dire que c'est une de mes frustrations, en fait, parce que ben là, on parle de mon expérience, il y a la réflexion avec, les émotions qui viennent, et en fait, je n'ai pas su et je ne saurais jamais ce que ça a pu faire vivre en retour, on va dire, aux gens que j'ai rencontrés à l'occasion de ce voyage, en effet. Ça, je ne saurais jamais. Comment eux, ils ont vécu notre arrivée, le fait de nous accueillir chez eux, de nous rencontrer avec nos différences aussi, le rire de ces enfants, voyant devant le rétroviseur, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ben, ça, finalement, je fais des hypothèses. C'est moi qui traduis les choses, mais j'ai jamais pu avoir leur retour. Ouais.
Donc, de ce voyage, on est plein de questions qui animent peut-être votre vie aujourd'hui. Merci Arlette pour ce témoignage et ces questions. Quant à moi, ami auditeur, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Amis auditeurs, si vous avez un souvenir marquant que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir en contactant Radio B. À bientôt.